Le 18-20 commence comme chaque soir par le premier journal et ce que vous devez savoir de cette journée du mercredi 11 mai avec le journal de Sébastien Logeny. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un baptême scolaire.
Oui, première fois que les lycéens de terminale bûchent sur leurs épreuves de spécialité. C'est le bac nouvelle formule. Les élèves viennent à peine de rendre leurs copies, on les entendra. On fera le point aussi sur cette réforme. À quoi ressemble ce nouvel examen? Quelles conséquences pour l'organisation des établissements? Les détails dans un instant avec notre spécialiste éducation. C'était l'une des dernières grandes restrictions anti-Covid. Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports publics à partir de lundi prochain. Conséquence d'une baisse continue de la pandémie dans l'Hexagone. Explication à suivre. À suivre aussi le journaliste militant Taha Bouafs, accusé de violences sexuelles dans une enquête interne de la France Insoumise. Les Palestiniens indignés après la mort d'une journaliste d'Al Jazeera, tuée lors d'une opération israélienne en Cisjordanie ce matin. Et plus de 90% de la barrière de corail australienne victime de blanchissement.
À 18h15, dans Un jour dans le monde, nous sommes en Afghanistan ce soir avec celles qui continuent à essayer de vivre aussi normalement que possible, avec les très courageuses qui donnent des cours clandestins. L'Afghanistan où désormais, vous le savez, les femmes doivent porter la burqa, reporter ce voile que certaines avaient oublié, les plus jeunes notamment. On y vient avec notre première invitée. Puis 19h20, c'est le téléphone sonne. Nous sommes sur des sols qui se craquellent, des nappes phréatiques qui souffrent, des rendements moins bons. La sécheresse frappe en ce début de mois de mai. Elle inquiète à juste titre les agriculteurs. Elle nous pousse aussi à réfléchir à nos pratiques, à notre modèle agricole, à nos solutions, nos préventions, les retenues d'eau, les changements de culture. À vos questions, vos réflexions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils sont donc plus d'un demi-million à étrenner le nouveau bac.
523 199 candidats exactement, qui vont plancher jusqu'à vendredi. Des lycéens de terminale qui ont passé aujourd'hui leur première épreuve de spécialité issue de la réforme Blanquer. Ça n'avait pas été possible en 2020 et 2021 à cause du Covid. Maths, humanités, sciences informatiques, biologie, écologie, au choix. Les épreuves ont commencé cet après-midi à 14h, rendu des copies à 18h maximum. Sonia Princey a tendu son micro à Mathis, sorti il y a tout juste une demi-heure. Il avait choisi la spécialité art plastique, ses premières impressions.
J'étais un peu stressé quand même avant de commencer parce que l'épreuve d'art, en fait, ça se joue beaucoup sur les œuvres qu'on va nous proposer, en fait. Et là, on a eu de la chance parce qu'on est tombé, en tout cas nous aujourd'hui, on est tombé sur des œuvres qu'on avait beaucoup étudiées pendant le cycle de l'année. Dès que j'ai vu la copie et des œuvres que je connaissais un peu, j'ai un peu été détendu, peut-être un peu trop détendu. Et quand j'ai vu qu'il me restait une heure et demie et que j'étais encore qu'à la première partie, je me suis dit bon, faut quand même que j'écrive beaucoup, etc. Et j'ai eu le temps de finir pile à temps, donc c'était plutôt cool. J'ai fait 8 pages, c'était plutôt, plutôt normal. Il y a quand même une camarade dans ma classe qui a fait 25 pages, donc mais je pense que je suis dans la généralité, donc je suis pas déçu. En gros, je suis pas déçu de moi. La première épreuve, c'est toujours l'étape difficile. On a toujours cette appréhension de savoir si ça va bien se passer, ça va mal se passer. Ça nous met quand même un soulagement pour la deuxième qui va être demain. Moi, demain, je passe l'anglais.
Voilà, Mathis, pas déçu de lui et soulagé. Précisons que ces épreuves ne compteront pas pour Parcoursup, hein, cette année décalée là aussi à cause du Covid. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Spécialiste éducation à Inter en direct du lycée Claude Bernard à Paris. On va revenir donc sur l'architecture globale de ce nouveau bac. Qu'est-ce qui change, Sonia, avec la version précédente du baccalauréat?
Eh bien, ces deux épreuves de spécialité qui se déroulent ces jours-ci sont vraiment la grande nouveauté, avec aussi le grand oral, mais ces écrits représentent un enjeu beaucoup plus important, d'abord par leur coefficient 16 pour chacune des spécialités, sur un total de 100, donc un tiers de la note finale du bac, et puis ces épreuves, qui normalement devaient se dérouler en mars, auraient dû compter dans Parcoursup et être déterminantes pour l'orientation des lycéens. Le calendrier a été modifié, vous le savez, à cause de l'épidémie de Covid cette année. Avec l'épreuve de français en première et l'épreuve de philosophie que les candidats passeront le 15 juin, ce sont désormais les seules épreuves écrites de ce nouveau bac. Toutes les autres matières sont évaluées par le contrôle continu pendant l'année de première et pendant l'année de terminale. 40% du total de la note globale en contrôle continu. Les élèves sont évalués régulièrement pendant 2 ans, ce qui change de la semaine d'épreuves qui avait lieu auparavant en toute fin d'année.
Et quelles sont les conséquences de ce nouveau bac en termes d'organisation pour les établissements scolaires ?
Alors il faut prévoir les salles d'examen pour ces deux jours, alors que l'année scolaire n'est pas terminée. Soit le lycée est assez grand et les cours des classes de seconde et de première peuvent être maintenus, soit, et c'est souvent le cas, pour garantir le calme, les proviseurs préfèrent annuler les cours habituels. Et puis il y a aussi la correction que les professeurs de spécialité vont devoir effectuer entre mardi prochain et début juin. Ils ont 4 demi-journées libérées de cours pour pouvoir le faire. Ils seront donc absents. Ce sera donc une fin d'année un peu bousculée dans les établissements. Ici, à Claude Bernard, on est même dans une cité scolaire, c'est-à-dire collège et lycée. Et la proviseure a dû jongler pour perturber le moins possible les emplois du temps des 1200 élèves.
Sonia Princey en direct du collège lycée Claude Bernard à Paris avec Stéphane Beaufils.
C'était la dernière survivance des mesures barrières.
Le port du masque dans les transports publics obligatoire depuis le début de la pandémie, eh bien cette mesure sera enfin levée lundi prochain, 16 mai. Décision annoncée aujourd'hui par Olivier Véran, le ministre de la Santé, à la sortie du Conseil des ministres. Bonsoir Victor Dolande.
Bonsoir.
C'est une suite logique vu l'évolution de l'épidémie.
Oui, le ministre de la Santé l'a rappelé, l'épidémie n'est pas terminée mais la tendance est à la baisse. Pour preuve, on recense encore 38 000 nouveaux cas de coronavirus en moyenne par jour, mais c'est près de 4 fois moins que le mois dernier. Tous les indicateurs de mesure de l'épidémie diminuent ces dernières semaines. Les hospitalisations sont en baisse, tout comme le nombre de malades en réanimation. Ils sont actuellement 1300 dans toute la France. Donc, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi prochain, mais il restera recommandé, notamment pour les personnes les plus fragiles, celles qui ont des comorbidités et donc plus de risques de développer une forme grave de la maladie. Avec cette décision, la France rejoint d'autres pays qui avaient déjà levé cette obligation. Citons par exemple le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Une dernière levée de restrictions qui sonne comme un retour à la vie d'avant l'épidémie. Enfin presque, en France, il y a encore un endroit où le masque reste obligatoire. Les établissements de santé au sens large, les hôpitaux et les EHPAD.
Victor Dolande, c'était l'une des mesures phares et très contestées du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le barème Macron qui permet depuis 2017 de plafonner les indemnités en cas de licenciement abusif. La Cour de cassation l'a définitivement validé. Un vrai coup de massue pour la France insoumise. On a appris aujourd'hui que Taha Bouaf, ce journaliste militant, un temps pressenti pour être candidat à la députation, Taha Bouaf est visé par une enquête interne au sein d'LFI pour violence sexuelle, accusé de viol. Rappelons qu'il avait retiré hier sa candidature aux législatives à Vénissieux. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Alors que sait-on à ce stade de cette affaire et quelles sont les réactions au sein du mouvement de Jean-Luc Mélenchon ?
Alors pour être très précis, au départ il s'agit d'une lettre envoyée vendredi dernier à la France Insoumise et notamment à la députée Clémentine Autain. Le courrier est ouvert samedi matin, le jour de la convention des investitures de l'Union Populaire. Alors il comporte le témoignage d'une jeune femme dénonçant une agression sexuelle qui pénalement pourrait être qualifiée de viol. Comme le veut la procédure, le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles du mouvement est saisi. Sans que c'est la règle, la direction du mouvement n'en soit alertée. Il en va de la protection des victimes présumées. Une confrontation est alors organisée lundi avec Taha Bouaf, désormais officiellement investi candidat à Vénissieux, en présence de Clémentine Autain, de la chef des députés insoumis Mathilde Panot et de Caroline Dehas, la militante féministe, membre du Parlement de l'Union Populaire. De lui-même alors, Taha Bouaf décide de retirer sa candidature, d'autant que deux autres témoignages sont venus alourdir le dossier, une agression sexuelle encore et harcèlement sexiste. Deux dépositions, dont une orale, qui à ce stade n'ont pas encore été enregistrées comme des signalements par le comité de suivi. Une affaire qui intervient en pleine, je cite, « campagne de dénigrement à connotation raciste de la candidature du jeune journaliste ». C'est ce que disait encore ce midi Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas été mis au courant. Ce sont les journalistes, dont j'étais, qui le lui ont appris. L'insoumis en chef Sonné apporte clairement son soutien à la parole des femmes. Il réclame que la vérité soit faite, tout en ajoutant « cela n'exempte pas les racistes qui ont harcelé Taha Bouaf ».
Laurence Perron du service politique d'Inter.
Elle était le visage médiatique de la Palestine, Sébastien, dans le monde arabe.
La journaliste d'Al Jazeera, Shirine Abouaklé, morte à l'âge de 51 ans, tuée ce matin d'une balle dans le visage, alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie. Al Jazeera parle d'un meurtre de sang-froid de l'armée israélienne. Israël pour qui il est possible, je cite, qu'elle ait été touchée par des tirs palestiniens. Sa mort a provoqué une onde de choc dans tous les territoires palestiniens, y compris à Gaza, où se trouve notre correspondant Frédéric Mettezo, qui a passé une partie de la journée dans les locaux d'Al Jazeera. Sur place, c'est son reportage.
C'est un va-et-vient incessant. Toute la journée, des personnalités de Gaza sont venues présenter leurs condoléances à l'équipe d'Al Jazeera, qui a continué ses directs en arabe et en anglais. Hasard du calendrier, une délégation de diplomates européens passait la journée à Gaza pour célébrer, avec quelques jours de retard, la journée mondiale de la liberté de la presse. Sven Kuhn von Bergsdorf est le chef de la délégation.
C'est très 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 sérieux, parce que ça va à la principe essentiel de la liberté d'expression et la capacité du média d'être indépendant et d'avoir la capacité de faire des reportages dans les zones de conflit sans avoir peur d'être tué.
Les Européens partis, on a vu arriver des immenses couronnes de fleurs au nom des différents mouvements politiques palestiniens. Sami Owaida, 57 ans, médecin à Gaza, raconte son émotion. Comme Al Jazeera, il accuse Israël.
Elle a toujours essayé de couvrir tout ce qui se passe ici d'une façon transparente et professionnelle. Alors, imagine quand elle était ciblée dans sa tête, malgré qu'elle a, tous les vêtements de journalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les Israéliens sont fous de tout le monde.
Il y a un an, le 15 mai 2021, les locaux d'Al Jazeera ici avaient été détruits par un bombardement israélien. L'installation dimanche dans les nouveaux locaux se fera sans joie. Gaza, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et ajoutons les réactions de la communauté internationale. Une mort profondément choquante pour Paris. L'Union européenne et Washington exigent une enquête indépendante et transparente. La guerre en Ukraine, 77e jour. Les dégâts du conflit sont de plus en plus lourds pour le pays. Près d'un tiers des emplois ont été perdu à cause des combats. Volodymyr Zelensky, lui, continue son travail de conviction auprès des politiques, mais aussi des citoyens. Le président ukrainien était aujourd'hui en visioconférence avec les élèves de Sciences Po, un échange que nous raconte Nicolas Munch.
La salle est bondée, les regards des étudiants fixés sur l'écran géant. Volodymyr Zelensky s'affiche comme d'habitude, t-shirt vert style militaire, deux drapeaux ukrainiens sur le fond. Les questions sont très préparées.
Et peut-être faut-il réfléchir, comme l'a évoqué le président de la République, à une nouvelle forme de structure complémentaire à l'Union européenne, une communauté politique européenne à laquelle...
La réponse du président ukrainien.
On ne peut pas rester dans cette incertitude de manière constante. C'est comme une table où toute la famille est réunie. Tu es invité, mais on ne t'a pas mis une chaise. Et je pense que c'est injuste.
À la fin de son intervention de plus d'une heure, des applaudissements et ovations. Kirillo est étudiant à Sciences Po, il est ukrainien et pro-Zelensky.
C'est le bouleversement parce que vous le voyez pendant les grandes réunions avec des chefs d'État et là, vous le voyez ici à Sciences Po.
Ça transmet les émotions et moi j'ai senti beaucoup de choses avec mes amis français qui étaient juste à côté de moi, je crois que je n'étais pas seul. Donc c'est vraiment le choc, inspiration, bouleversement profond et la fierté pour lui et pour notre pays.
Parmi les 500 personnes sur place, aussi d'autres étudiants ukrainiens. Sciences Po Paris en a accueilli une trentaine depuis le début de la guerre.
Le reportage de Nicolas Munch.
Quand la protection de la nature devient un enjeu électoral.
On parle ici de la grande barrière de corail au large de l'Australie en proie à un nouvel épisode de blanchissement massif sur plus de 720 récifs étudiés. Plus de 650 sont affectés, constate un rapport très sensible, tellement sensible que le gouvernement australien conservateur a tenté d'en empêcher sa parution. À Sydney, Grégory Pless.
Le dernier épisode de blanchissement du corail aura été de courte durée, mais bel et bien massif. D'après le rapport rendu par l'autorité en charge du plus grand récif corallien du monde, plus de 90% de la Grande Barrière de Corail a subi une forme de blanchissement. Mais pour Lisa Schindler, écologue à la Société australienne de conservation marine, le plus surprenant, c'est que cette année, les températures en Australie sont inférieures à la normale.
Quand l'Australie est sous l'influence de la Niña, il pleut davantage et les températures sont plus basses. C'est donc très inquiétant de voir que le corail blanchit, même dans ces conditions.
Autre victime potentielle, le Premier ministre Scott Morrison, qui compte au sein de son gouvernement des climato-sceptiques avérés. Lui-même est partisan du moindre effort concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Il est aussi un soutien indéfectible du secteur des énergies fossiles. Reste que la publication de ce rapport fait tâche. C'est pourquoi d'ailleurs ses services ont fait pression pour en retarder la parution, espérant qu'il ne sorte qu'après les élections fédérales qui se tiendront le 21 mai prochain. Elle s'annonce mal pour Scott Morrison, alors que d'après un récent sondage, le changement climatique est la préoccupation numéro un des Australiens. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Voilà, puis quand le corail dépérit, d'autres investissent dans les diamants. Le plus gros diamant jamais mis en vente a été adjugé à 18 600 000 dollars aujourd'hui. Loin toutefois des records attendus, les experts misaient sur 30 millions, tous pairs.
Voilà, ma bonne dame. Merci beaucoup Sébastien Eugénie. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde, vous nous raconterez l'évasion de Russie d'une des Pussy Riot, pas piqué des verres d'ailleurs. Ce soir, nous allons en Afghanistan où, vous le savez, après l'interdiction de l'école, les filles et les femmes doivent ressortir du placard les burqas, ou comment les talibans veulent vraiment exclure les femmes de tout le champ social. Et puis en deuxième heure, je vous le remets dans l'oreille. Allez-y, le standard est ouvert, les standardistes vous attendent, c'est le téléphone sonne. On parle sécheresse ce soir qui couvre encore une quinzaine de départements, qui devient désormais tellement régulière qu'on s'interroge, on interroge nos pratiques agricoles, nos solutions. Faut-il revoir nos cultures? Pourquoi les bassins d'eau de pluie sont-ils si décriés? Quelles solutions et préventions durables contre la sécheresse? 01 45 24 7000. Et justement, place, Sébastien Léa, c'est dans la place.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien, bonsoir. Soleil voilé, quelques orages demain.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Un voile de nuages élevé assez épais va envahir le pays dès cette nuit. Alors la matinée sera encore lumineuse et bien ensoleillée entre la façade est, le midi toulousain, le bassin parisien, la Normandie et les Hauts-de-France. L'après-midi, le ciel deviendra plus laiteux, hormis en Corse et en Provence qui garderont un soleil radieux. Sur le Languedoc, un peu comme aujourd'hui, il faudra attendre la dissipation des grisailles apportées par le vent marin pour retrouver le soleil. Et puis entre le bassin aquitain et le Limousin, la matinée sera plus instable avec des risques d'averses localement orageuses. Ces averses et ces orages vont circuler plutôt rapidement pour atteindre l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, voire le Lyonnais demain après-midi, mais ils pourront aussi s'attarder près du Massif central.
Avec des températures en légère baisse.
Oui, après les fortes chaleurs de cet après-midi, on retrouvera des températures un peu plus modérées. Alors il va quand même faire en plus de 25 degrés sur de nombreuses régions. 25 degrés à Nancy et à Dijon, 26 degrés à Marseille, Bordeaux et Aurillac, 27 degrés à Perpignan, Toulouse, Tarbes et Strasbourg, ou encore 28 degrés à Lyon. Des pointes à 30 degrés sont possibles très localement. Prévoyez 23 degrés pour Paris, Ajaccio et Nantes, 20 degrés à Lille, 19 degrés à Rouen et 18 degrés à Brest et à Bille.
Sébastien Léas de Météo France, merci. Sébastien, on se retrouve tout à l'heure après 19h.